Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.
Oui, j'ai fini par le rencontrer, le Bukao chimiste.
Oh.
Voilà, c'est ça le Bukao, hein.
Bukao.
Et je l'ai rencontré, et c'était pas donné que je le rencontre, mais enfin, bon, il est là devant moi, c'est André Menviel. Bonjour André Menviel.
Bonjour.
Donc André Menviel, donc Bukao chimiste, eh ben, il va nous expliquer, parce que moi je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ça.
Alors, c'est Bukao chimiste, en français vocal chimiste, c'est une déclinaison de vocaliste. Alors, ça veut dire, Bukao chimiste, pour moi, ça veut dire, vocal chimiste, ça veut dire chimie, la chimie des, la mousse. C'est comme la mousse des bois, ce sont des éléments qui poussent par captation des choses. Et moi, je chante beaucoup par captation, je ne suis pas tout seul dans ma voix, j'ai plein de voix dans ma voix. Alors, j'ai la voix du café, de là où je suis né, à Pau, avec mes oncles et tout ça qui chantaient, les gens qui passaient. « Mais c'est au départ, au coin de tournaille, les bébés. » Tous ces trucs-là que j'ai entendus, les polyphonies béarnaises. Et puis je suis tombé très vite sur la bossa nova. Et de ce coup, je me suis dirigé vers cette musique qui me plaisait et je savais pas pourquoi. Après, j'ai appris que c'est la langue la plus proche de l'occitan ou du béarnais, c'était le portugais. Mais le portugais du Brésil ou du Brasil, et c'est pas le même que. Donc, quand je dis Bukao chimiste, c'est cette chimie-là, quoi. C'est-à-dire, je chante dans une multitude. Voilà, mon identité est rhizomique. Je ne suis pas un arbre ou un truc. Je suis des racines, des radicelles entre plusieurs identités. Donc entre plusieurs, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire entre le jazz et la java, entre la musique traditionnelle et puis moi je dis traditionnelle parce que j'aime bien altérer les choses. Donc traditionnel, ça veut dire qu'il s'est un peu sali avec l'autre en fréquentant les autres, l'autre. Donc c'est comme ça que j'ai appris et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent comme ça, comme disait Henri Méchonique dans ce que j'ai parlé tout à l'heure dans la petite intervention, l'identité se construit par l'autre, par le rapport avec les autres. Quoi. Donc pour moi, dans ma voix, je suis plusieurs. Voilà.
Bah écoutez, c'est très compliqué, mais on va
complexe.
Démêler.
Complexe.
Non, mais compliqué, je persiste. Complexe, allez, si vous voulez.
Oui. Hein,
mais je préfère. On va essayer de démêler tout ça, hein, le vrai du faux. Sachant d'abord que vous êtes né à Ney.
Ah, je suis né à Pau, dans le truc, et après j'habite à Ney. Mais la plaine de Ney, c'est un peu la Bad Bieille, comme on l'appelle, la vieille vallée, quoi.
C'est votre berceau?
Ah oui, en tout cas c'est le berceau de mes ancêtres puisque dans ma famille ils ont fait un peu l'arbre généalogique et je dois dire que j'ai migré de 3 kilomètres, je suis à Ney, mais mes grands-parents, mes arrières et tout ça, ils sont tous nés dans la plaine de Ney, quoi. Merde, j'ai pas les noms maintenant. Bordère, pays de Bayrou. Voilà, et ils sont nés tous par là.
Donc, Beyrou, Ney, voilà, une bonne communication que nous allons entreprendre. Cependant, André Menviel,
oui.
On vous connaît de par ailleurs. Vous êtes l'homme d'Uzest.
Oui, j'ai fait mes classes politiques à Uzest. J'ai commencé un peu sur le tas. À chanter dans le café déjà, puisque il faut dire une chose qui est très importante dans ma vie, c'est que je suis né dans un lieu public. Mes parents tenaient un restaurant pour les gens qui travaillaient là autour, les chauffeurs de bus, les voilà, c'était le café La Mugue, rue des Orphelines à Pau. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 5-6 ans dans ce milieu où les gens venaient manger et puis chanter. À la fin, chantait les chambernais.
Donc, qu'est-ce qu'il chantait comme chambernais?
Betsé au départ, par exemple.
Ça donne quoi, alors?
Betsé au départ, quand t'es tourné des bédés, et t'en souffert des spuches qui t'ai quittat, sim qu'au maudit, chance de poudre et bédé, adieu, Betsé, t'aurais plein regrettat. Etc., etc. Donc, moi, c'était une langue qu'on ne parlait pas autour de moi. C'était une langue du chant. Pour moi, c'était la langue du chant au départ, le béarnais, quoi. C'était mes oncles et mon père. Mon père chantait dans une chorale béarnaise, Los Cantaires d'Hidron, qui est un village, voilà, dans la plaine de Naï aussi. Et donc, je suis un peu tombé dans la marmite, quoi, comme on dit, quoi.
Comment se fait-il que ces traditions vocales, musicales, je ne sais pas comment le dire, sont...
Polyphoniques aussi, oui.
Polyphoniques.
Oui, à plusieurs voix.
Peut-être.
Ouais.
Donc, ces traditions polyphoniques, comment sont-elles restées vivantes là-bas, à Pau?
Ah oui, c'est vrai qu'elles sont toujours vivantes. Je me souviens du groupe Balaguer, là, des jeunes qui ont repris tout ça. Ça continue. Parce que tout ce pays des Pyrénées, des montagnes, les gens chantent à plusieurs, quoi. Donc, dès qu'il y a une fête locale et qu'il y a une buvette, les gens se mettent autour. Je disais tout à l'heure, Nougaro était président de mon projet Suivez l'accent, puisque j'ai fait un projet sur l'accent, on en parlera tout à l'heure. Mais dans le giron de les voix de l'opéra et de l'apéro, parce que je disais l'apéro, parce que quand on chante à plusieurs, on boit aussi. On boit et c'est l'ivresse. Et on restitue ce qu'on boit. Moi, j'aime bien cette idée. C'est-à-dire qu'on atteint l'ivresse pour chanter quelque chose qui est du domaine de notre mémoire, quoi, de notre mémoire collective, quoi. Et ça, c'est pas écrit. Il n'y a pas de partition pour ça. Il faut rentrer dans le chaudron, comme on dit. C'est-à-dire, pour chanter en polyphonie, il faut rentrer dans les voix, dans ces voix typiques du Béarn. Après, il y a la Bigorre à côté où il chante aussi. Donc, je pense que dans tout, peut-être pas en Ariège, moins peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, ça chante. Et puis il y a le Pays Basque aussi.
Ça chante dans le respect de la tradition.
Ça chante dans le respect de la tradition, absolument.
Ça, c'est important.
Oui.
Parce que ailleurs, ça a disparu. En grande partie.
Pas partout. En Bretagne, encore de tout ça, ça marche encore. Voyons, en Catalogne aussi, peut-être. Oui, quand même, ouais. Non, ça n'a pas disparu partout, ça se maintient, on va dire. Après, je ne suis pas sûr que la jeunesse s'intéresse encore, mais j'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, pour le Béarn, ça reste encore vivace, l'art du polyphonie. Ouais. Puis surtout, il y a un truc qui arrive, c'est que les filles s'y mettent. Avant, c'était que des hommes.
C'est la question que j'allais vous poser.
Ouais.
Parce que je dis, on les filles là-dedans.
Alors, ma fille, par exemple. Moi, je ne parle pas, qui ne parle pas le béarnais, il me manque de mots, et puis la syntaxe, quoi. Mais par exemple, ma fille qui m'a entendu chanter « Prends le porto de Boutska, pas gauche », et puis une chanson que j'ai écrite en occitan, elle travaille avec l'Institut Occitan à Pau, et puis parle maintenant la langue très bien. Et puis ça lui plaît à la chanter, surtout elle y trouve. Enfin moi je trouve que chanter en béarnais, comme elle me dit, je dis j'ai pris le pied, quoi, parce que il y a un érotisme là-dedans quand on chante, quoi. Ça fout le frisson un peu, quoi. Quand on se met à chanter à plusieurs, et puis que ça fout un peu la chair de poule.
Alors vous aurez compris que dans cette émission, on va partir sur des tas de choses bizarres, et notamment sur un mot qu'on aime plus trop prononcer aujourd'hui, c'est le mot imaginaire. Je crois que l'imaginaire va être le lien conducteur de cette émission. Et nous allons donc écouter...
Cadet au son. Cadê? Ah, chegou. Obrigado. Din, 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 din. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha o que passa, e o doce balanço, caminho do mar.
corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Complètement de la démonstration musicale de ce que vous disiez.
Oui, absolument. Si je vois Gilberto, c'est un de mes maîtres. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé sur la façon d'envisager la lettre, comme on dit, hein. La musique, et puis les paroles, les mots, comment on met les mots, comment on met les. Et j'ai appris plus tard que pourquoi je suis venu à l'Occitan ou à chanter en créole. Moi, j'appelle ça créole parce que je suis pas occitan pur et dur. Même j'ai trouvé une formule pour moi occitan mixte. Voilà. C'est-à-dire que j'ai de l'occitan en moi, mais je suis mixé, quoi. Je suis pas resté que sur l'occitan. J'ai mixé l'occitan avec ce qui est excitant, c'est-à-dire ce qui ouvre à, et justement, on m'a dit que la langue la plus proche de l'occitan, c'était le portugais. Donc, le portugais parlé par les Brésiliens ou chanté par les Brésiliens, c'est quelque chose qui est altéré. D'où ce que je disais tout à l'heure, cette histoire d'altérité, quoi.
Alors, on va revenir tout à l'heure dans un grand moment, une grande partie de l'émission sur l'accent, mais on y est déjà en fait.
Ouais,
on est déjà là.
Complètement.
On y est déjà.
Complètement.
Et comment se fait-ce que nos amis occitans n'ont pas davantage utilisé cette racine-là ?
Ben, il y a quand même Claude Sicre à Toulouse qui a fait un gros travail là-dessus, quoi. C'est celui que je connais le plus proche de ce que je pensais comment développer quoi. Enfin, c'est lui qui m'a fait comprendre pourquoi j'étais attiré par cette musique. C'est parce que c'était la langue de ma grand-mère presque quoi, Alice. Ma grand-mère Alice qui devait pas me parler en français. Elle est morte. Je devais avoir 5-6 ans. Mais je me souviens de cette langue, et surtout cette langue a été parlée par les grands quand ils voulaient pas que je comprenne quand on est enfant et qu'ils ont quelque chose à dire d'important, ils se mettaient à parler en béarnais. Et pour moi, c'est comme Jean Gilberto, quoi. C'est-à-dire, d'un seul coup, il y a un chant qui arrive, une langue qui arrive, et pour moi, c'était la langue des grands, quoi, la langue du chant.
En fait, c'est un rapport inversé avec la vergogne et cette langue méprisée pour le reste des temps, quoi.
Vous savez, la honte, c'est la même écriture que la source, la honte, la fontaine, quoi. Donc, quelque part, si je fais un travail sur l'accent, c'est parce qu'il y a des gens qui considèrent que quand on a un accent, on n'est pas sorti de chez soi. Mais moi, j'ai trouvé une plus belle formule. Quelqu'un qui a un accent, c'est quelqu'un qui n'est pas sorti de chez toi. Moi, je dirais. C'est plutôt comme ça. Il faudrait renverser la vapeur. Et j'ai abordé l'accent par la musique, moi, en fait. Parce que quand on entend chanter ce monsieur, il a une façon d'articuler sa syntaxe, d'articuler sa musique. Et pour moi, c'était ça, l'accent. C'est à la fois l'accent de sa façon de parler, mais c'est aussi de musiquer, de jouer avec la langue, avec les sonorités.
Alors, cet accent qui nous taraude, qui nous titille, j'allais dire, titiller, j'aime bien ce mot. On y est là, on est en plein, vous avez complètement débordé le temps. J'avais dit, bon, l'accent, on en parlera grandement dans l'émission, mais là, on y est en plein. Alors, quand on parle de l'accent, moi, j'ai quelqu'un qui me redonne confiance en l'accent, c'est notre ami Herrero. Parce que lui, il y va.
Oui. Il y va, il a pas de, mais il y a une très belle interview. Peut-être on aura le temps d'écouter un bout de Daniel Herrero qui parle de l'accent et il dit c'est le vestige flamboyant de la dernière maman. J'adore ça. Et il dit que la façon de parler, l'accent sourd, il sourd comme une source. Vous voyez, ça me plaît ça. Cette histoire de comment c'était la phrase de l'intellectuel, un corps c'est de la parole telle qu'il surgit. Alors si vous n'avez pas fait rugby, vous pouvez pas trop comprendre quoi. Mais c'est ça un accent, c'est un corps quoi. C'est...
Alors est-ce qu'on peut essayer de trouver ce document Herrero?
Bien sûr.
Allons-y parce que je crois qu'il viendrait bien là.
Eh bien écoutez,
l'accent de fait, il est le vestige flamboyant de la dernière maman. De la dernière langue, de la dernière mamée, celle qui a passé le pas, qui a été un peu dominée, qui a été massacrée, pas forcément, hein. Une autre langue est venue. Elles ne sont pas faites la guerre, elles se sont un peu cousinées. Il y a eu même une saillie quelque part. Tu vois, cette saillie-là, elle a enfanté. Moi, je suis de ceux qui parlent aujourd'hui une langue que pour laquelle j'ai de l'estime et de l'amour, quoi, tu vois, qui est la langue de France, mais quand même cette langue-là a marché, a quelque part même dominé et a fini par, non pas anéantir, ça veut dire réduire au néant, sûrement pas, ma langue est vivante, il reste que celle qui était la mienne, que je dirais occitane, celle qui était celle de mes anciens, occitane ibère, tu vois, elle pousse encore dans ma bouche et dans mes mots, tu vois, elle a encore son, elle sourd. Elle sourd.
Yes, yes.
Elle sourd. Tu vois, elle est une source. Voilà. Bon, après, moi, je parle le français, hein, mais tu comprends bien que nous parlons quelque chose, nous portons quelque chose à travers nos mots, et c'est quelque chose de fait. C'est l'âme de nos ancêtres.
Ça valait la peine d'écouter cet extrait de notre ami Herrero, hein, parce que quelque part, vous êtes dans cette veine-là.
Oui, un peu au contact, quoi, rugbyman. Moi, j'ai joué au rugby, c'est une passion, le rugby, pour moi. Et quand j'ai rencontré Daniel Herrero, évidemment, la façon de parler, moi, je trouve qu'elle est très rugbystique.
Ça, c'est vrai.
Il va au contact, quoi.
Oui.
Voilà.
Il ne fait pas de cadeau.
Il va au contact. Voilà. Il a une façon de parler qui ne met pas des parenthèses ou des... Il va direct, quoi.
Ça, mais vous êtes un peu pareil.
Ben, j'essaye, mais j'ai pas sa verve. Je peux l'avoir en chant, mais en mots comme lui, il a du métier. Puis surtout que j'aime bien parce que chez lui, il y a le joueur, l'entraîneur et le commentateur. Il y a trois personnages dans ce qui, comment il parle. C'est pour ça qu'il parle comme il parle.
Il y a trois niveaux. Oui.
Ouais. Et l'entraîneur, quand il parle à ses joueurs, il faut qu'il trouve les mots. Ça doit pas être facile, quoi. Enfin, je me vois pas entraîner une équipe de gaillards et de prendre la parole dans les vestiaires. Il faut avoir du verbiage, quoi.
Et vous, comment vous êtes venu donc à l'écriture pour justement vous pour essayer de transcender cette parole occitane par le chant, par la poésie, par la chanson?
Ben, j'y suis venu par ce que j'appelle la vocal chimie. J'ai commencé moi par faire des onomatopées. Comme on dit, mais chanter des choses, ça, un yaourt. Par exemple, j'ai écrit une chanson il n'y a pas longtemps, Le Beau Vélo de Babel. Le Beau Vélo de Babel, c'est le boléro de Ravel, mais un yaourt. Et c'était au tout début quand je faisais du bal que les chefs d'orchestre nous auditionnaient, nous les chanteurs, disaient, vous chantez à l'anglais. Je disais, bien sûr. Puis je faisais « One French say, when a car through ». J'ai inventé une façon d'éviter que le gars pense que je ne parlais pas anglais. Et donc, ça leur plaisait. Parce que c'est ça que j'appelle vocal chimie, c'est-à-dire, c'est dans la poésie, des fois, on ne comprend pas tout. Hein. On n'est pas obligé de comprendre, mais par contre, les choses peuvent vous toucher, comme un chant aussi, pareil. Et donc, je suis venu d'abord par le chant, c'est-à-dire pas de mots, mais des sonorités, voilà, des sonorités, ouais, on peut dire ça. Les onomatopées, c'est les onomatoping, on dit en gascon ou en occitan, onomatoping, tuping, onomatoping, il y a tuping, il y a le chaudron dans lequel on met et les mots, le chant, c'est comme comment on pourrait dire ça? On n'est pas obligé de comprendre une chanson par ses mots pour être touché par un chant, quoi. Voilà.
Et les braves chefs d'orchestre ne voyaient rien
Si, je pense qu'ils le voyaient, mais qu'ils trouvaient que je me débrouillais pas mal.
Ils étaient contents, quoi.
Voilà. Parce que heureusement, je chantais en français aussi, et donc voilà, il y avait quand même une grande partie en français. Pour l'anglais, c'était quelques chansons, Born to be Alive, par exemple, ou voilà. Mais après, on se débrouille, on fait un phonétique, comme je dis, c'est-à-dire on se rapproche le plus près possible de ce qu'on entend, quoi.
Et le boléro, ça donne quoi, alors?
Alors, le boléro, use in the such man of to low stand it smooth, fariontan muchins dig, sanch machumare osternets, iskunzamare master songat mis, mais gavonder luns, do you, 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 you. C'est ce que je vais faire ce soir, voilà. Je vais chanter ce soir Le Beau Vélo de Babel, voilà.
Écoute, on va prendre plaisir à écouter le beau vélo, le beau vélo. C'est quand même quelque chose, hein, parce que là, on est complètement parti dans un délire imaginaire et ça fait du bien.
Ah ben, je vous remercie. Je vous remercie.
Ça fait vraiment du bien, ouais. Parce que bon, on est dans une telle... dans des telles normes par rapport surtout
à la
poésie, à la chanson et tout
Les
formats. Les formats
des formats, ouais, absolument.
Des formats. Si vous n'êtes pas dans la norme...
J'essaye de travailler sur le déconditionnement, j'appelle ça. Parce que nous sommes tous conditionnés. À une époque, je voulais monter par rapport à l'accent, je voulais monter, habiter sur une péniche sur le canal du Midi. Et faire écouter aux enfants les Pygmées, la Calas, Daniel Herrero, plein de voix, parce que je me suis aperçu que les gosses, j'ai fait des ateliers avec, ils écoutaient tous les mêmes radios, Fun Radio, Énergie, 4 ou 5 radios. Et donc, ils étaient formatés. Donc, ils n'avaient aucune chance d'écouter comment le monde chante, quoi. Par exemple, il y a ce triple CD que j'ai eu à l'époque qui s'appelle Les Voix du Monde, une anthologie des expressions vocales, qui a été fait par le CNRS, Harmonia Mundi et Chant du Monde, où il y a tous les gens qui chantent partout. D'ailleurs, j'espère qu'on écoutera un petit mot d'une vieille chamane de la Tierra del Fuego. Avec ma boîte accent, parce que j'ai des boîtes accents. Si les gens sont intéressés, ils peuvent taper boîte accent sur Internet. Et boîte accent, boîte avec un accent, avec une parenthèse, comment on appelle ça, une apostrophe, boîte accent. et ils vont tomber sur mes petites boîtes. Et donc je vais essayer de vous faire écouter une vierge chamane de la Tierra del Fuego. Voilà. Qui chante. Voilà. Alors ça, c'est, j'appelle ça. Je dis souvent aux gens. Les gens le croient des fois. Ils disent c'est ma grand-mère. Mais c'est ma grand-mère cosmique, quoi. C'est-à-dire, c'est une vieille chamane du fin fond de l'Amérique du Sud. Et qui parle dans un langage, avant le langage, quoi, dans sa langue à elle, quoi. Je sais pas, il y a des gens qui me demandent, elle dit quelque chose, je dis, écoutez-la déjà, voilà, quoi.
Non, mais là, on est dans nos propres contradictions, où ceci, vu de certains instituts parisiens, excusez-moi l'expression, on va trouver ça génial. Si c'est la mamette de la Salvota, on va dire, c'est ridicule, hein.
C'est ça.
C'est ça, en fait. C'est ça. Hein. On souffre de ça.
C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça, ce témoignage qu'on a là, qu'on vient d'entendre, il a fallu bien qu'il y ait des gens qui aillent là-bas, avec des micros, tout ça, pour l'enregistrer, cette dame. Elle venait pas ni à Paris, ni à Montpellier, ni dans le sud. Hein. Donc les gens ont été là-bas, au fin fond de la Patagonie, pour enregistrer cette dame, quoi. Je suppose que ça a disparu, ce langage-là. C'est un langage ancestral, quoi. Mais après, j'aurais pu faire les Esquimaux, les Inuits, voilà, qui chantent pas pareil. Mais ce CD, ce triple CD, avec toutes ces voix qu'il y a dedans, m'a fait comprendre que j'avais pas besoin de chercher mon identité. J'étais un petit bout, un petit morceau, tout petit, de tout ce monde-là, quoi. Voilà. Donc ma voix était dans ce monde-là.
Vous faites l'apologie à votre façon, mais... On acquiesce, hein. C'est l'apologie de l'universalité.
Oui, oui, oui. Oui.
Parce que généralement, c'est flou, l'universalité. C'est un concept un peu oiseux. Alors que là, on y est de plein, quoi. On y est de plein pied.
Oui.
Et c'est vrai que l'universalité, vous le disiez tout à l'heure en préparant l'émission, l'universalité, elle passe par une dimension maîtrisée. C'est-à-dire qu'on parlait de la commune, par exemple.
Oui, voilà, voilà. C'est vrai que le projet Suivez l'accent, par exemple, il est venu du fait que j'ai passé 17 ans de ma vie à Uzeste Musical, là-bas en bas à gauche, comme je dis, donc entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, voilà, un petit village de 340 habitants où on exprimait une façon de s'adresser à la population avec à la fois des débats politiques, de la musique de bal, des performances où on te dit « Allez, vas-y, improvise-toi ». Je me souviens au début, j'improvisais, ben, je lisais des textes de Prévert, je me débrouillais, quoi. Je prenais une matière ici, une matière là. Et j'essayais de montrer que j'étais à l'écoute du monde, quoi. Et que c'est la moindre des choses aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, ça est devenu encore plus prégnant, cette histoire d'être à l'écoute du monde. On voit bien ce qui se passe partout. Et maintenant, Avec Internet, avec les nouvelles technologies, on peut être au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier, quoi.
Voilà. Oui, mais est-ce que tous les usestes du monde peuvent se donner
à... Ah, usestes, sa faiblesse, c'est qu'il est tout seul pour l'instant à faire ce travail-là. Et je disais, il ne faudrait pas que ce soit comme à Lourdes, quoi, qu'on y aille pour les miracles, pour voir des miracles. Il faudrait qu'ils fassent des petits, et ça veut dire que des artistes partout prennent leur village, leur l'endroit où ils vivent. Castaing avait une très belle phrase, il disait: on n'est pas le produit de son sol, on est le produit de l'action qu'on y mène. Ça, c'est formidable, quoi.
Ça, c'est Félix Castaing.
Voilà, c'est Castaing, Félix Castaing. C'est une phrase que j'ai retenue. Parce que c'est vrai que pour notre identité, c'est pas le droit du sol ou le droit du sang, c'est de travailler avec l'endroit où on est. Nous, on a fait, moi ici à Nail, là où j'habite, j'ai fait il y a très peu de temps un travail avec le collège autour de monsieur qui s'est suicidé en 1942, poursuivi par d'un côté les franquistes et de l'autre côté les nazis. Il s'appelait Karl Einstein. C'était un très grand homme de l'art contemporain. C'était un des premiers qui a écrit sur l'art africain, en disant qu'il y avait un art en Afrique, parce que sinon ça partait en ethnologie, quoi. Donc là, les masques, tout ça, il a fait un gros travail là-dessus. C'était un copain de Picasso, de tous ces grands artistes, et il s'est jeté du pont de l'Estel Bétaram, parce qu'il n'en pouvait plus de la guerre. Il s'est battu avec la colonne d'Urruti en Espagne, avec les anarchistes espagnols. Donc c'était pas n'importe qui, ce monsieur, c'était un monsieur engagé. Eh bien, j'ai fait un travail avec les élèves du collège là-dessus, sur ce monsieur, sur le travail qu'il avait fait. Et le professeur d'histoire, qui allait troisième, m'a dit: formidable, je savais pas. Il était à côté de chez nous, ce monsieur. Et il traverse tout le programme des troisièmes, c'est-à-dire depuis la guerre de 14 jusqu'à 1945. Donc voilà, voilà par exemple un travail qu'on peut faire chez soi en regardant autour de soi. Qui c'est qui habite là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est jeté dans le Gave. Moi je savais pas que le Gave de Pau, le Gave est un terme unique. Le Gave, c'est Gavarni. Le Gave, c'est un torrent, un truc qui se jette dans l'Adour. Je savais pas que c'était un terme unique, quoi, le Gave. Je pensais que le Gave, il y en avait partout. Et non, parce que du côté de la Nemezan, ça s'appelle plus un Gave, ça s'appelle la Neste. Une Neste. Et etc, etc. On donne des noms aux choses. Donc, faire un travail, chanter son pays, chanter le... Vous savez, j'ai découvert en faisant mes travaux de recherche que en Australie, quand vous voulez traverser un territoire, comme il n'y a pas assez de cartes routières, parce qu'il y a plus de routes à certains endroits, il faut s'arrêter chez un ancien, un aborigène, qui vous apprend un chant. Vous arrêtez là pendant un mois ou deux, vous apprend un chant, et c'est ce chant qui est votre carte de la route, quoi. C'est lui qui vous permet d'avancer en marchant. Je trouvais ça formidable, quoi.
Extraordinaire.
Ouais. Ça s'appelle le chant des pistes. Ça, c'est un truc.
Alors, est-ce qu'on a ça chez nous?
Ah non, malheureusement. Mais si, on a ça, le chant des pistes. Non, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas ça.
Ah, bah, c'est...
On a pas assez d'endroits déserts comme là-bas, quoi. Parce que là, c'est des endroits désertiques que vous traversez. C'est pour marcher dans le désert. Vous apprenez un chant pour marcher dans le désert, c'est formidable.
C'est vraiment extraordinaire comme histoire. Et donc, cet accent... cette action que vous avez menée sur l'accent, c'est pour mieux le respecter.
Oui, ouais, respecter l'autre.
Voilà.
Celui qui n'a pas le même que moi, par exemple. Et en même temps, j'ai associé ma démarche de la parole avec joindre le geste à la parole, on va dire. C'est-à-dire avec le geste musical, quoi. Parce que forcément, quand on a un accent, on a un chant aussi. Un accent, c'est un chant. Quand je suis allé dans le Nord, ils m'ont dit comme ça: oh ben vous chantez, nous, attention, on est... C'est... Je lui ai dit, mais vous avez votre chant aussi. Ou du côté de Strasbourg aussi, on m'a dit la même chose, que nous, dans le Sud, on chantait. Mais... Je lui ai dit, mais vous aussi, vous chantez, mais c'est pas la même... vous, c'est plutôt, peut-être un peu plus rock'n'roll, quoi. On va dire, dans le Nord, moi, Patti Smith, j'ai Jacques Bonafé qui a fait un texte Patti Smith avec l'accent du Nord. Je trouve que Patti Smith, la musique de Patti Smith va bien avec l'accent du Nord, par exemple.
Donc là, on est vraiment dans la reconquête de l'accent, du terme...
Du chant.
Du chant et de l'accent.
Ouais, ouais.
Mais franchement, est-ce que on n'a pas contribué à se foutre en l'air nous-mêmes, quoi?
Ah mais oui, bien sûr. André Benedetto dit qu'il y a plein de gens qui ont honte de leur façon de parler, de leur accent, mais que s'ils savaient que c'était une honte collective, peut-être que ça leur ferait un peu plus de bien, quoi, parce que... On est tout seul face à ça, souvent, et on ne sait pas qu'il y a plein de gens qui n'osent pas prendre la parole parce qu'ils ont un accent, par exemple. Voilà. Ils n'osent pas prendre la parole. Vous savez que Jacques Derrida a dit une phrase terrible à l'époque, c'était sur le comment ça s'appelle son livre, je ne sais plus le titre de ce livre, l'accent français, quelque accent que ce soit, et surtout celui méridional, ne me paraît pas, a fortiori, digne d'une parole publique. D'avoir entendu René Char, avec son accent des Cévennes, dire ses poèmes avec son accent, n'a pas peu fait pour faire effondrer un amour de jeunesse. C'est dur, hein. C'est dur d'entendre ça, quoi. Comme quoi, on n'aurait pas le droit de faire la poésie avec son accent, avec sa façon de parler, avec de là où on vient, comment on a appris à parler, quoi.
Mais oui. Est-ce que ces problèmes d'accent n'ont pas été focalisé par ce centralisme français?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Où il n'y a bon bec que de Paris, comme dirait un professeur, c'est à ça. Moi, qui était fort sympathique. Et bon, voilà quoi.
Bien sûr.
Pagnol, moi j'adore les pagnolades, alors que, bon, c'était pas de bon ton d'aimer Pagnol ou de... Les gens, ils bloquaient sur... Parce que c'est vrai que quelque part ça a mis notre espace méridional un peu ridicule, de façon ridicule.
Oui, mais vous savez quoi, on va certainement écouter Claude Nougaro tout à l'heure, qui était président de ce projet. L'opéra, c'est Toulouse, hein. L'opérette, c'est Marseille. L'opéra, c'est Toulouse. Et toutes les voix françaises, hein, qui ont nourri l'opéra, souvent venaient du sud-ouest. Du sud, quoi. Parce qu'on chante, les Pyrénées, chez moi, ça chante, quoi. Bon, voilà. Et donc, les grandes voix, les voix qu'on connaît, venaient souvent de ces milieux-là. Donc, c'est une... moi, que j'ai appris au conservatoire à chanter classique, c'est-à-dire comment ça marche, quoi, à l'intérieur. La colonne d'air, le diaphragme, tous ces trucs-là qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Mais vous apprenez dans les écoles à chanter, et la langue bénie de l'opéra, c'est l'italien quand même, la langue italienne. J'adore chanter en italien, quoi. Bon, voilà. Donc ça a résonné pour moi, pour occitan, italien, opéra, apéro, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ivresse, quoi.
Alors si je vous disais, André Emmanuel, bon, osons, prenons notre petit tas d'ivresse, hein, et improvisons, là.
Improvisons,
voilà.
Alors, si je pouvais improviser quoi, je vous ferais des onomatopées si j'improvisais. Mais j'en ai déjà fait. Alors,
improvisons avec des mots.
Avec des mots. Alors, ça, c'est plus difficile. Ça, c'est un travail. Ça, c'est. Il y a des gens qui font ça beaucoup. Mais ça, c'est un travail quotidien. Vous voyez, c'est pas du spontané, ça. Moi, je préfère pap du hi, yap du hi, tipi, du 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 bap. Ça, c'est du scat, comme on dit. Après, vous avez la vocalise. Alors, la vocalise. C'est l'art de mettre des mots sur des musiques déjà constituées. Par exemple, quand j'ai fait la valse Indifférence, ainsi va la vie d'ici, la vie elle a d'ici bas. Elle débarque et batterie, les premiers pas dansés, elle demande des écoliers, balancés dans l'air, sans avoir d'air, souliers dans le temps. Au folle nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré, rissé, bon, c'est le ton du blues. J'ai fait de la vocalise au sens noir américain, c'est-à-dire, cette valse existait, elle était, et j'ai mis des mots dessus. Donc j'ai suivi, l'accentuation. J'ai trouvé les mots qu'il fallait. Donc ça a été une première improvisation, mais une improvisation écrite du coup là. C'est que il faut que ça coule.
Travailler.
Ouais, c'est un travail. Il faut que ça coule. Par contre, après, ça s'appelle la vocalise. Après, vous avez le scat. Là, vous pouvez faire ce qu'il vous chante, quoi. C'est le cas de le dire, quoi.
À lutèce voguante aux aurores de nacre, clocher, sonne là-haut la cloche des patries, à la cité des rois, des croix, des gueux, des sacres, que retentisse encore le glas gras des tueries. À la ville lumière éteinte en simulacre, fous-nous le gros boudon, beffroi du capital. Carillon, sonnez tous à cette capitale que la guerre épargna et que la paix massacre. Ton pastis, je le bois dans tes pluies, mon Paris. Ton azur, je m'y noie autour de tes nuits, mon Paris. Jusque dans tes rats, tu sais que tu mourras. Dans tes îles, je vais te faire un Brésil, Paris. L'aile de tes ponts inonde mon front d'une encre d'esprit, mon Paris. Même quand le pont neuf, pauvre Ravaillac, descend Henri IV, Paris. J'aime ta chanson sur tes 100 000 scènes, mon Paris. Je t'aimerai avant que j'exhale ma dernière halle, Paris. De mon sud dessus en son soleil noir, tu m'aspirais Paname, au berger toilé où s'attablaient les affamés de flammes. Par étincelant où débarquaient tous les marins de l'âme, j'accourus vers toi, Paris. Mes souliers sont en cuir de chaussettes, mes chaussettes sont en laine de pieds nus, mais c'était pour mieux déguster et tâter et téter ta peau, désir. Bien sûr, je cherchais les poètes, c'est-à-dire ceux qui baisent avec les nus. Et c'était ici que le grand vent de l'invention faisait valser les têtes. Paris, Jérusalem de l'intelligence, tout murmure des jubilations. Je t'en prie, oh, je t'en prie, oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie, toi qui fus un grain de beauté du monde, sois grain de bonté du monde. Paris, au nom de tous ceux qui vivent dans le sandwich de tes rimes, ceux qui t'aiment et te salivent sans les mots pour qu'on les crive, des Quasimodo qui claquent dans tes flics et dans tes flaques, sonneront des cloches de Tour Eiffel. À lutesse voguante aux aurores de nacre, clocher,
sonne là-haut la cloche des patries, à la cité des rois, des croix, des gueux, des sacres, que retentisse encore le glas gras des tueries. À la ville lumière, éteinte en simulacre, fous-nous le gros bourdon, beffroi du capital, carillon, carillon.
Nougaro, j'allais dire mon maître, votre maître.
Ah oui, oui. Mais c'était plus qu'un maître, parce que c'était un obstacle. Parce que quand on a un baryton Martin comme moi, parce que moi je suis dans l'opéra, on a des. Il y a ténor, baryton. Baryton Martin, c'est entre ténor et qu'on est du sud-ouest et qu'on chante en français, les gens vous disent ah, ça ressemble. Et donc pour moi, c'était un obstacle, ouais. Il fallait que je sache comment je pouvais faire ma voix à moi sans copier Nougaro. Et c'était. En plus, Nougaro, mon amour pour son travail, c'est que. Il a justement été cherché chez les jazzmen, il a été cherché au Brésil, c'était un fou de musique brésilienne, comme moi, quoi. Et il a été cherché chez les jazzmen aussi, quoi. Donc, voilà, il écrivait, c'était un des chanteurs français qui a pris l'autre, quoi. L'altérité, on parlait, et qui a piqué chez les autres, quoi.
Musicien sans frontières.
Avec un accent.
Avec un accent.
Comme il faut.
Un bel accent.
Voilà, un bel accent d'opéra. Parce qu'on a discuté souvent ensemble où il me disait, attention, dans l'opéra, il y a plusieurs O, il y a plusieurs A. Il faut savoir, quand on parle d'une langue à l'autre, quand on chante l'opéra en italien ou en français ou en allemand, voilà, on parlait de territoire tout à l'heure, le philosophe Gilles Deleuze qui a parlé de déterritorialisation. Bon, c'est un concept un peu... intellectuel, mais le territoire ne vaut que par le mouvement par lequel on s'en sort. C'est-à-dire que ça veut dire que quand on est quelque part, pour comprendre où on est, il faut sortir un peu pour voir comment vont les autres et revenir. Et c'est là qu'on comprend mieux d'où on est, quoi, d'où on va.
Alors, cette notion de territoire, hein, les allusions et plus que nous avons faites vis-à-vis de Castan. Félix Sastan, qui a mis son bocal à expérimentation sur les bordures du Larzac, hein.
Ouais.
Vous avez dû y aller en son temps, etc., etc. Bon, Uzeste, est-ce que ça peut perdurer, ce type de projet? Est-ce que ça peut perdurer pour justement redonner la confiance, quoi, la confiance intellectuelle, culturelle?
Ben, c'est de plus en plus difficile parce que les gouvernements successifs qu'on a désertent certains endroits et donc les gens portent à bout de bras les jeunes, puis les jeunes veulent plus rester. Ils veulent aller à la ville, ils veulent aller là où ça brille. Donc c'est très difficile de... Je sais que la compagnie Nubat et Uzeste font un travail remarquable sur place, mais c'est jamais gagné. Jamais, jamais, jamais. C'est un travail... de forcené, quoi.
Mais est-ce que vous pensez pas que le cursus s'inverse un peu?
Il faut qu'il s'inverse. Il faut qu'on retrouve des choses de proximité. Enfin, moi, je pense que les initiatives locales, par exemple, dans la plaine de Naï, il y a des trois professeurs qui ont monté sur le principe des AMAP, c'est ça, une AMAC culturelle, quoi. C'est-à-dire que les gens donnent une somme d'argent pour voir trois choses qu'ils savent pas ce qu'ils vont voir. Ils payent pour aller pour voir, quoi. Donc ils sont, on les prévient ce soir, voilà, ça se passe à telle dans la salle des fêtes de et les gens arrivent là et hop, ils découvrent ce qui est... et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour découvrir.
Ça éveille la curiosité.
Oui, ça c'est formidable, ça.
Tout à fait. André Mainviel, c'est son Occitanitude aujourd'hui, vous l'aurez compris, et on flirte bizarrement avec l'accent, mais on flirte aussi bizarrement avec l'imaginaire, parce que je pense que l'imaginaire, ça devrait être la cible permanente de tous nos partenaires, et je pense que à un moment donné, on institutionnalise trop les choses.
Oui, c'est-à-dire que on est centralisé quand même. On est centralisé. Les histoires nous arrivent de d'en haut là. Hein. Castaing a une belle phrase là-dessus, il faut substituer à la nation pyramide la nation amphithéâtre. Ça, je trouvais, c'est ça, ça m'a marqué, ça. C'est-à-dire que quand on chante, moi, par exemple, quand je chante, j'adore les amphithéâtres. Parce qu'on a on est au milieu des gens, on n'est pas au-dessus. Nous ne sommes pas au-dessus, les artistes de la population, tout ça. Il faudrait qu'on soit conviés au milieu de tout le monde, vous voyez. C'est ça. Et quand je chante dans un amphithéâtre, je suis à la fois au théâtre, à la fois dans la musique, à la fois dans le chant. Là, quand j'étais en Grèce, j'ai vu les constructions, par exemple, architecturales, où vous parlez à un endroit et tout le monde vous entend, du haut en bas, quoi. C'est magnifique ce qu'ont fait les hommes là-dessus, quoi. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui, on est envahi par des décibels, beaucoup, avec des grosses sonos. Et moi, j'aime bien, avec Marc Perron, qui est mon grand ami, on dit que nous sommes des musiciens de proximité. On aime bien avoir affaire aux gens, leur voir leur visage, plutôt que d'avoir une foule anonyme en face de nous.
Les concerts que vous faites, ils s'adressent à combien de personnes?
Oh ben, moi, ça va de 12 à 1000, quoi. 1000, c'est mon seuil. Mais par exemple, quand on faisait l'estaminet de l'hiver à Uzeste, bon, l'été, c'est plein, hein, au festival, mais l'hiver, ben, des fois, j'ai fait solo même vielle un soir avec 5 personnes en face, quoi. C'est plus difficile, hein, des fois, de jouer devant 5 personnes. Parce qu'on s'adresse directement aux personnes, quoi. Donc, mais bon. Quand on aime chanter, quand on aime faire de la musique, on peut chanter devant son chien, devant son chat, devant soi-même, même devant la glace, quoi. Je me souviens, quand on est gosse, on fait semblant qu'on a un micro à la main et on se met devant la glace pour essayer de voir quelle gueule on a. Alors, une petite pause avec John Hendricks, parce que John Hendricks, c'est le papa de Al Jarreau. C'est tous les vocalistes américains, et c'est quelqu'un qui appréciait certainement Claude Nougaro. Et vous allez voir, ça c'est de l'accent. Hein. I was blue and I was always wearing a frown, because my love had turned me down. Then we met and you can bet I knew from the first, you were my love, congrats on the old great cloud burst. My heart really blew the day you caught my eye. I hope that we two will never say goodbye. Clouds of gray have silver linings when they're reversed. I found your love and that's when the old gray cloud burst. Tell you about your love and any kissing and your hugging and your sweet little love, pretty baby. I want to satisfy until you play here. Come to the bride. Tell me, baby, I don't know, maybe listen to my story. So, baby, sure, I want to find a way to turn it out. I really go for you, over you, believe me, baby, because I certainly do. But tell me, you really, 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 when you're telling me that you probably got a kind of crush on me. It moves me, grooves me. How divine can one woman be? Oh, little darling, I'm really falling. They got me goofy and gay. I'm going to get carried away. Just think you're going to be mine someday. Oh, let's spin a little talk, a little stop, a little talk, a little live, a little baby, a little baby. Every time I'm home, it's near, nobody loves me like you, dear. Let's pop a little cheese, a little enemy. A little trial, a little never have to cry, a little bit. No deny that you're mighty pretty and that's it. Cause I love you, baby, 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 with all my heart. Listen to me, I wanna say a little, let it get away. Because I know, pretty baby, I know. How pleasant was it? Pleasant as fun, some of these parts. Wonderful what I love you do. Look at what love did for you. Well, I'm a lucky lover, I got the love you to discover. I was blue and I was always wearing a frown, because my love had turned me down. Then we met and you can bet I knew from the first, you were my love, but that's when the old break. Now take a look at me, boy, take another look, take another look, take another look, take another good long look at me, love, open my eyes, and now I see. Clouds of gray have silver linings when they're reversed. I found your love, and that's when the old gray cloud burst. That's when the old gray cloud burst.
Alors, ça mérite une explication, non?
Ah oui, 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 c'est à l'époque, j'écoutais Al Jarreau, moi, le noir américain, et j'ai lu dans une interview sur Jazz Magazine que son maître était John Hendricks. Et John Hendricks était à l'époque, juste avant les Beatles, premier au classement mondial, le truc, ils avaient monté un trio avec Lambert Ross Hendricks, ça s'appelait, et ils reprenaient, on parlait de suivre l'accent, il reprenait les standards du big band de Duke Ellington ou machin, et il mettait des mots sur les pupitres le saxophoniste. Il suivait les inflexions des instruments, et il mettait des mots dessus. C'est le travail de ce monsieur, quoi. Donc, ce monsieur, je l'ai rencontré. Il avait 88 ans. Il avait les yeux d'un enfant, hein, avec pétillé. Et c'est un des seuls qui a chanté avec Thelonious Monk. Et qui m'a raconté que Thelonious Monk avait dit, tu sais, John, si tu veux qu'on continue à faire ce qu'on fait, il faut pas dépasser l'âge de 5 ans. Parce qu'il faut garder une fraîcheur. Ce qu'on entend dans le chant de ce monsieur. Inéluctablement, même si on comprend pas ce qu'il dit, on entend une fraîcheur, une vivacité, une joie, voilà. C'est, pour moi, c'est une référence, même si je comprends pas ce qu'il dit. Mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, quoi. Voilà.
Alors, comment vous concevez aujourd'hui dans la vie que nous vivons des chants bannières, parce qu'il y a toujours besoin des gens ont besoin de symboles.
Oui, oui.
Comment vous le...
Oh ben, ça vient par des fois par des musiques. Par exemple, Marc Perron, qui est mon ami, on a fait 5 chansons en 30 ans de trucs. On est contre la surproduction. Et lui, il a fait beaucoup de collectage. Moi aussi, je fais du collectage de voix, du collectage d'accent. Bon, j'ai un site. Moi, je voulais appeler andremenviel.com et ça marchait pas. Alors, c'est .com, mais andremenviel.com, vous trouverez mon site et vous allez trouver, parce que ça a commencé à Toulouse. Alors, andremenviel.com, c'était la moindre des choses. Et sur mon site, vous trouverez toutes les collectages que j'ai pu faire pendant 10 ans ou 15 ans. Et Perron, pour moi, est quelqu'un d'important parce qu'il a fait d'abord du collectage et puis il ramène des musiques. Quand on écoute les musiques de Perron, on se dit, ah tiens, je connais ça, mais en fait, il a piqué un peu par-ci, un peu par-là, il a monté comme faisaient les compositeurs à l'époque, Bartok. Il allait dans les campagnes enregistrer des musiques traditionnelles et il faisait la musique classique avec la musique qu'il avait pris sur le vif, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait la chanson qui s'appelle aujourd'hui Esperanza Laranese. Alors, j'ai écrit ça parce que j'ai été au Val d'Aran une année et j'ai rencontré une jeune demoiselle dans la rue qui m'a dit que la langue officielle était l'occitan au Val d'Aran, mais que les enfants parlaient 5 langues, c'est-à-dire l'occitan, le catalan, parce qu'ils sont à côté, le castillan, espagnol, un peu d'anglais, et la dernière, je ne sais plus, enfin, elle m'a dit 5 langues, et les cours de mathématiques sont en occitan et tout ça, donc je dis, moi j'aurais rêvé chanter, parler 5-6 langues, quoi. Aujourd'hui, j'en parle une à peu près, le français, l'espagnol, je chabraque un peu, mais je me débrouille, et une chicotte l'occita, et peut-être je peux finir par vous chanter Esperanza Laranese, qui est une canzou, comme ça les gens comprendront quelques mots, peut-être.
Alors, allez-y.
Alors.
Si y en a da pla vecino, canto cumbia campesino, l'aranese uno latino, parlo gas con allegria, un minorita zembaraglia, a boca de noi saralien, quan las bitos acabaien, a quin di calia o parpalio, bum bum bum, pren lu por to buts cap a gaus cap a dret, pren lu por to buts sin vergonya calandret, la nene lu joc esta cazzo un du putz, pachi que pachoc du costat de Santa Cruz, pren lu por to buts per anar cerca paratge, pren lu por to buts per anar aus en pundatge, sur lus caminaus de la rue de la cunt, cuntus cuminaus de la rue din calempun, si anada pla vecina, canto cumbia campesina, l'aranese uno latina, parlo gas con allegria, io minorita zembaralies, a boca de noi saralien, con las bitas a cavaille, a cun de calio parpaglio, bum bum bum.
Ben voilà, c'était une occitanitude particulière, on vous l'avait dit, l'occitanitude d'André Menviel. Merci André, merci.
Merci
de ce moment partagé. Enfin, j'espère pour vous qu'il a été bon.
Oui, oui.
Pour nous, il a été fabuleux. Enfin, je dis nous, je parle au nom de William. Ça a été un grand moment agréable.
Merci. À Kokaibou, comme on dirait chez moi.
Merci à vous.
Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préparée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.